Quand j'ai commencé mon ministère, il y a plus de 20 ans, la question du pardon est arrivée très vite dans les entretiens que je faisais. Moi, débutante, une personne m'a posé des questions auxquelles je ne savais pas répondre. Cette personne avait été abusée par son père pendant son enfance, elle avait déjà un certain âge. Quand elle était petite, elle était malade et devait rester à la maison. Elle me disait alors que le lieu où elle se sentait le plus en sécurité, ce n'était pas la maison, mais c'était d'être dehors. Se sont posées alors pour elle trois questions. Comment pardonner à quelqu'un qui ne m'a jamais demandé pardon? Comment pardonner à mon père qui est mort? Et comment savoir si je lui ai vraiment pardonné? Sans pouvoir répondre à ces questions, elle sentait bien que le chemin du pardon était un chemin de libération. En effet, tant qu'on ne pardonne pas, on reste lié à la personne, emprisonné dans ce qui fait mal. Mais elle savait aussi que cela prend du temps, parfois le temps de toute une vie, car évidemment, toute sa vie, elle a été impactée. Alors avec cette personne, eh bien, j'ai appris et nous avons cheminé ensemble dans nos entretiens. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le pardon n'est pas une injonction, mais un chemin. C'est le chemin du Christ, de Jésus. Tu connais Jésus, Uriel, hein ? Eh bien, le pardon, c'est le chemin de Jésus. Jésus a fait du pardon le cœur de son message, en allant jusqu'à donner sa vie. Nous l'entendrons tout à l'heure dans la liturgie de Sainte-Seine, il va le répéter. Il fait du pardon une puissance de libération pour l'offensé et pour l'offenseur. Quand j'ai regardé le mot pardon dans la Bible, c'est surtout le verbe, plus que le substantif qui est cité, le verbe pardonner, comme si le verbe montre que le pardon n'est pas figé, mais toujours en mouvement. Et en grec, pardonner, c'est aphiemi, c'est-à-dire envoyer, renvoyer, laisser aller. Un mot qui ouvre sur un déplacement. Dans la parabole que Jésus partage avec ses disciples, il parle de dette financière. C'est un vocabulaire de l'argent. Alors à l'époque, c'était très parlant parce qu'on allait directement en prison si on ne payait pas ses dettes. Et c'est dans ce registre que Jésus aborde la question du pardon. On le trouve aussi dans le Notre Père. Jésus, dans la prière, on dit en fait, en grec, dans Matthieu, « Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. » Et « remettre », c'est le même mot, c'est « aphiemi, aphès » dans la forme grammaticale. Alors, dans cette histoire, dans cette parabole, comme souvent, Jésus va jouer sur les contrastes. Alors, j'ai souri tout à l'heure en entendant la traduction de la parole de vie, parce qu'on parle de franc, ça date un peu. Et en fait, en grec, le premier serviteur doit 10 000 talents, qui était la monnaie de l'époque. Ouais, 10 000 talents, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est à peu près 20 à 30 années de salaire. C'est beaucoup d'argent, énorme. Et la punition du maître, eh bien, c'est d'être vendu comme esclave, lui et toute sa famille. Mais le serviteur implore la pitié du maître et il lui demande d'être patient. Et le maître écoute et entend cette supplique et il le relâche. Mais ce serviteur n'a pas compris la leçon. Quand il voit son compagnon lui demander 100 pièces d'argent, ce qui est quand même beaucoup moins, il entend son cri réclamant la pitié et la patience, exactement la même phrase qui est mise dans sa bouche à lui quand il adresse sa supplique au roi, eh bien il refuse et il jette cette personne en prison. Alors le roi, qui a appris la chose, lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi, j'avais eu pitié de toi. Ce serviteur n'a pas pu entendre d'un autre la supplique qu'il a adressée lui-même à son roi. La parabole concerne la vie du royaume. Le royaume, c'est pas un lieu physique, c'est un règne. C'est le moment, le lieu où Dieu règne, où Jésus règne, où Dieu est là. Et le pardon apparaît ici comme un mouvement. Si nous nous mettons à la place des serviteurs, nous sommes avant tout au bénéfice d'un pardon immense remis sans condition. Ça, c'est nous. Un pardon pour une dette que nous ne pouvons pas rembourser. Être dans le registre de l'argent suggère que je dois quelque chose à Dieu. Ce serait la conséquence de mon péché, comme dans l'histoire de Cain et Abel. Pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas ? Si tu n'agis pas bien, le péché, tapis à ta porte, te désire, mais toi, domine-le. Et Cain ne va pas dominer cette pulsion de mort, et il va tuer son frère Abel. Comment réparer les conséquences de toutes les attitudes humaines, de toutes les attitudes qui ont été les miennes et qui ont engendré de la souffrance chez quelqu'un d'autre ? De plus, c'est Dieu qui est offensé quand j'offense mon prochain. Parfois, on est conscient d'avoir blessé quelqu'un d'autre, mais d'autres fois, non. Même le psalmiste, au psaume 19, il parle de cette inconscience qu'on a. Il demande à Dieu « Acquitte-moi des fautes cachées ». Jésus dit lui-même à la croix « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Combien de fois on ne sait pas ce qu'on fait ? Ce serviteur à qui il a été pardonné, il ne sait pas ce qu'il fait en jetant son compagnon en prison. La première chose à retenir, c'est de se souvenir que nous sommes nous-mêmes libérés de notre péché. On l'a dit tout à l'heure au moment de notre liturgie. C'est pour cela que Jésus est mort et que Dieu l'a ressuscité. C'est pour cela que l'on dit que Jésus vient nous sauver, il nous sauve du mal qu'on fait. Et voilà la deuxième partie où le serviteur est mis dans l'action de pardonner. La somme est moindre, mais le parallèle est le même. Et ce serviteur, Jésus m'invite à m'identifier à lui. Mon débiteur est celui qui m'a offensé. Il me doit quelque chose, il me doit réparation. Mais quand on parle de réparation, on a l'impression d'un échange, d'une logique de colmatage. Est-ce possible ? Rendre de l'argent, c'est possible, c'est facile, c'est simple. Et encore, avec ou sans les intérêts. Mais quand on parle d'offense, peut-on raisonner de la même manière ? Dieu va empêcher Cain de subir la vengeance. Vous avez entendu ? Dieu met un signe sur Cain. Car jamais la vengeance ne peut rendre ce qu'on a perdu. La vie d'Abel ne sera pas rendue. La blessure que j'ai subie de mon offenseur, de cette blessure-là va rester une cicatrice. L'injustice que je dois vivre sera-t-elle jamais comblée ? C'est là où la logique du pardon apparaît fondamentalement décalée avec cette façon de voir par rapport à la réparation. Avec le pardon, on ne peut pas être dans la réparation. On est dans la logique du don. Vous avez peut-être remarqué en français, dans le mot pardon, il y a le don. Donner en oubliant la notion d'échange et de compensation. L'autre me doit quelque chose qu'il ne pourra jamais me rendre. C'est un fait, c'est une étape de l'accepter. Le pardon est alors le laisser-aller de la dette impossible à rembourser. Laisser-aller. Le pardon avec le laisser-aller va introduire de la liberté dans la relation entre l'offensé et l'offenseur. Tant qu'on n'a pas pardonné, on reste lié à l'autre par le mal subi. Et ce mal peut emprisonner, paralyser notre énergie pendant des années. La blessure que j'ai reçu de l'offense m'appartient. C'est à moi d'en prendre soin. C'est à moi de vouloir la cicatriser. Je peux bien sûr faire comprendre à mon offenseur qu'il m'a fait mal. C'est d'ailleurs ce à quoi Jésus nous encourage un peu plus haut dans le chapitre. On a vraiment un modèle de la gestion du conflit. Il nous propose d'abord d'aller voir l'autre seul à seul, de s'entretenir avec l'autre de seul à seul pour lui dire ce qui ne va pas. Mais évidemment, ce n'est pas toujours possible, surtout quand la personne est morte par rapport à cet exemple du début. La cicatrice de ma blessure prend du temps. L'image de moi-même en souffrance me place devant mon impuissance fondamentale, devant ma fragilité, ma vulnérabilité. Ce n'est pas toujours facile de reconnaître que j'ai été blessée. Mon orgueil en prend un coup. Et j'en veux à l'autre de m'avoir mis dans cet état. Et pourtant, il faut bien que j'admette que je suis seule responsable de mes émotions, de mes sentiments. Le pardon ne peut pas être une injonction, mais une voie possible pour aller vers la vie, pour aller vers la libération. Si Jésus nous demande de pardonner, il nous donne aussi les moyens de le faire. Et parfois, ça prend du temps. Mais le pardon commence par la volonté de pardonner, de vouloir de pardonner. Si je n'en pas dans cette volonté, je reste dans ma rancœur et j'aurai peut-être envie de faire mal à mon tour en imaginant que si je fais mal, eh bien je me sentirai mieux. L'encouragement à pardonner est rappelé à chaque fois que nous disons la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme dans la parabole, on se rappelle que Dieu peut entendre nos demandes et nous pardonner et qui nous encourage à rester dans ce même mouvement du pardon. C'est un mouvement de vie. Cela n'a pas comme but de montrer à l'autre qu'il est le plus fort et qu'il a le dernier mot, mais que la vraie puissance est celle de la libération. Si je laisse aller mon offenseur, si je demande à Jésus d'être à mes côtés pour lui pardonner, alors c'est moi qui me sentirai libérée. Jésus vient me sauver alors du mal subi. Souvenez-vous de cet homme, au moment des attentats de 2015 à Paris, qui avait perdu sa jeune femme, et il avait dit « Vous n'aurez pas ma haine ». Il avait compris, tout de suite, qui ne voulait pas rester attaché aux terroristes, ne serait-ce qu'avec un sentiment de haine. Alors, c'est un sujet sans fin. J'aurais pu faire une deuxième prédication. Mais c'est aussi un sujet qui nous fait expérimenter la force de vie donnée par Dieu. Quand un jour le poids de nos rancœurs laisse place à une légèreté nouvelle, on peut alors utiliser cette énergie libérée pour aller de l'avant. À la croix, Jésus s'est rendu solidaire du mal que nous faisons et que nous subissons pour nous en libérer, pour que le mal soit transformé en force de vie. Jamais Jésus ne nous refusera son aide dans notre volonté de pardonner, car seul on n'y arrive pas. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi, parce que ce n'est pas un mouvement du tout naturel. C'est qu'avec l'aide de Jésus qu'on peut y arriver. La puissance du pardon s'apparente à la puissance de résurrection qui relève, qui remet debout, qui remet en marche, qui permet à la relation de redevenir vivante et de porter du fruit, de paix et de joie. Alors entrons dans cette joie d'être pardonné pour pouvoir pardonner à notre tour. Amen.